Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse Bouddhiste que nous consacrons aujourd'hui au koan et plus particulièrement au koan sur l'intime de Dohan Kanshi. Les koans sont des textes très courts, souvent très déconcertants, échangés entre les maîtres et les disciples dont le but est de mener à l'éveil. Alors de quand datent les premiers koans? D'où viennent-ils? Est-ce qu'il existe différents types de koans? En quoi le koan sur l'intimité est-il révélateur du mécanisme de ces échanges entre maître et disciple? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Catherine Pagès. Catherine Pagès, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous pratiquez le bouddhisme depuis 30 ans. Vous êtes disciple du maître zen américain Denis Gampo Mertzel Roshi, lui-même successeur de Taizan Maizumi Roshi, le fondateur du centre zen de Los Angeles. Vous avez vécu pendant un certain temps aux États-Unis et c'est après avoir reçu la transmission en 1992 que vous êtes revenu en Europe. Vous avez alors fondé le centre d'Anna en région parisienne où vous enseignez aujourd'hui la méditation. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Catherine Pagès. Alors, pour commencer cette émission, j'ai envie de citer un exemple de koan pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Quel est le bruit que fait une seule main en train d'applaudir? Alors, c'est quand même très déconcertant, pour ne pas dire hermétique. Qu'est-ce que ça veut dire, Catherine Pagès? À quoi servent les koans?
Les koans sont une méthode de questionnement qui a été utilisée depuis très longtemps par des maîtres pour provoquer chez le disciple un état d'éveil. Il s'agit d'une expérience directe qui ne passe pas par l'intellect, qui ne passe pas par un raisonnement, qu'il soit philosophique ou intellectuel ou logique. Il s'agit d'avoir une expérience directe de cet instant, de la réalité des choses. Ce n'est pas un koan, mais ça va illustrer la manière dont fonctionne un koan. Quand vous voyez un enfant qui se précipite vers sa mère et que sa mère le prend dans ses bras, vous avez faites immédiatement l'expérience de ce que c'est que l'amour d'un enfant pour sa mère ou de la mère pour son enfant. Il n'y a pas besoin de raisonnement, il n'y a pas besoin de longs commentaires sur la question. Oui, je comprends ce que c'est que l'amour paternel et l'amour filial. Voilà. C'est ce genre d'expérience que le koan essaye de déclencher.
Alors, je précise tout de suite qu'en fait, on peut dire koan et koan hein, en France. On peut utiliser les deux terminologies. Donc, en fait, c'est un vrai moment de communion entre quelqu'un qui aspire à l'éveil et quelqu'un qui est déjà éveillé.
Voilà. Alors, la question est en général posée par celui qui essaye d'aller vers l'éveil, et la réponse vient d'un maître éveillé, ou quelquefois d'ailleurs c'est l'inverse, pour essayer de provoquer chez le disciple vraiment de le mettre en contact, disons, avec une question qui va déclencher une espèce d'état où tous ces raisonnements habituels, ses opinions, ses idées, ses convictions, etc., sa lecture habituelle du monde va être bousculée, ou tellement secouée même qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Mmh. Voilà.
Alors, de quand datent les premiers koans?
Alors, le mot koan a été utilisé, la trace qu'on en a, pour la première fois au XIIe siècle en Chine. C'est probablement bien antérieur à ça, parce que la manière dont les koans sont développés, c'est d'une façon très naturelle, c'est-à-dire les maîtres vivaient avec leurs disciples et avaient des activités quotidiennes, buvaient du thé, partageaient les repas, allaient se faire des promenades, planter des arbres, récolter le thé, etc., nettoyer, etc. Et pendant ces moments de vie commune, au moment où le maître sentait que le disciple était mûr pour vraiment comprendre une question ou pour accéder encore plus loin, je dirais, dans son questionnement, la question arrivait. Un peu plus tard, des maîtres se sont souvenus, ou des élèves se sont souvenus, des interactions qu'ils avaient eues ainsi avec leur maître, ou avec des histoires qu'ils avaient entendues. Et c'est ainsi que les koans se sont développés. On a continué à utiliser des histoires qui avaient été très signifiantes dans ce déclenchement justement d'éveil. On a continué à les utiliser plus tard. Donc on peut dire que ça a été utilisé d'une façon plus systématique à partir du XIIe siècle en Chine. Et c'est une technique, qui est une méthode pédagogique qui est très particulière à certaines branches du zen.
Alors est-ce que vous pouvez nous préciser tout de suite l'étymologie de ce mot?
Alors, le mot Coran, c'est, il y a deux, on n'a pas trouvé de traduction possible encore dans le monde occidental. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé une traduction vraiment significative. Il y a deux idéogrammes. Il y a l'idéogramme qui est Kou, le premier idéogramme, et qui veut dire magistrat, juge. Le deuxième, An, veut dire table. Donc, c'est, par extension, c'est un écrit, quelque chose qui a été déposé sur la table du magistrat et qui fait office de jurisprudence. Voilà. C'est très important parce que ça immédiatement met l'accent sur le fait que le Coran est quelque chose d'universel. Ça part d'une expérience très précise, ça part d'un questionnement très personnel, mais ça débouche sur une expérience qui est universelle et qui a ce caractère où on ne va pas pouvoir réfuter. C'est une expérience.
D'ailleurs, on vit encore ces expériences aujourd'hui.
Absolument.
Donc on peut dire que ces Coans continuent à résonner chez les hommes et les femmes d'aujourd'hui.
Absolument.
Et est-ce qu'il existe différents types de Coans, différentes catégories?
Oui, bon, au départ, évidemment, enfin, quand le Coran est né en Chine, c'était au jour le jour que ça se passait. Après, quand il est arrivé au Japon, quand le système est arrivé au Japon, ça a été plus ou moins organisé. Alors, on peut dire maintenant que le système de Coran qu'on suit maintenant, on pourrait, les premiers Corans mettent beaucoup l'accent sur une expérience d'unité. Je suis toute chose.
Voilà. D'accord.
Et d'unité et d'interdépendance de tous les phénomènes. Alors, je vais vous citer un Coran. Rappelez-vous que c'est énigmatique. Vous n'allez peut-être pas vous rendre compte immédiatement qu'il s'agit d'une expérience d'unité. Le premier Coran auquel je pense, là, c'est... Il y a deux moines qui sont en train de discuter. Il y a une bannière d'un temple qui est agitée par le vent. Alors, la discussion, c'est est-ce que c'est la bannière qui bouge, est-ce que c'est le vent qui bouge ? Un maître qui passe par là et qui entend la discussion, les deux moines n'ont pas arrivé à se mettre d'accord, le maître dit à ce moment-là, ce n'est ni la bannière qui bouge, ce n'est ni le vent qui bouge, c'est votre esprit. Une autre catégorie de Coran, une fois qu'on a eu une expérience comme ça d'unité, c'est de voir la diversité, de faire l'expérience de la diversité, c'est-à-dire que chaque chose est intrinsèquement différente. Mais c'est une expérience qu'on fait au sein de l'unité. Alors, un autre Coran, par exemple, c'est « Comment pouvez-vous aider ce vieil homme à se lever sans utiliser vos mains ?» Là, nous sommes dans l'autre et moi-même, et en même temps, je suis différente. L'autre est un vieil homme, et moi, je ne suis pas un vieil homme. Voilà.
Et donc la dernière catégorie, Catherine Trajès ?
Alors la dernière catégorie, c'est une catégorie de Corans qu'on appelle des Corans barrières, en sens qu'ils sont encore plus difficiles que les autres et qui sont abordés au bout d'un certain temps, bien sûr. Un Coran qui va vous paraître très énigmatique, mais je veux vraiment insister qu'une fois qu'on a vu le Coran, c'est très évident. Voilà. Alors ce Coran, c'est un maître qui dit, c'est comme un buffle qui passe à travers une fenêtre. La tête, les deux cornes, les quatre pattes et le corps, tout ça a passé. La queue ne passe pas. Pourquoi est-ce que la queue ne passe pas? Donc vous voyez la situation, la fenêtre elle est grande, grande au point que tout le reste que tout le corps du buffle a pu passer et cette queue qui reste. Voilà. Donc c'est ce que le disciple a à résoudre. Pourquoi la queue ne passe-t-elle pas?
Alors j'aimerais maintenant qu'on s'arrête sur un autre Coran, qui est le Coran que vous avez baptisé Coran de l'intime. Il est issu d'un recueil de la fin du XIIIe siècle, intitulé « Écrit du moine Kézan sur la transmission de la lumière ». Et en fait, donc, c'est un recueil qui rassemble tous les récits au moment où en fait les disciples deviennent éveillés, reçoivent la transmission du Dharma. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce Coran et pourquoi est-ce qu'il est révélateur justement du mécanisme de ces Coans?
Alors voilà, la scène se passe dans un monastère et il y a un serviteur qui est très proche de son maître, qui est vraiment l'assistant de son maître. Et la scène se passe au moment où le maître va revêtir ce qu'on appelle le kesa, qui est une pièce de l'habit du moine. C'est une sorte d'étole qui est faite de pièces cousues tout ensemble. Et le serviteur donc lui est en train de lui passer cet habit pour que le maître s'en revête. Et à ce moment-là, le maître lui demande Mais qu'est-ce qui se passe sous cet habit? Vraiment la question complètement directe. Qu'est-ce qui se passe ici à l'intérieur, sous notre protection, sous nos habits, sous, au cœur de notre être? Et le moine ne sait pas quoi répondre. Il reste interdit. Le maître continue et dit, c'est vraiment très douloureux que quand on a consacré sa vie à la voie du Bouddha, c'est-à-dire à atteindre l'éveil, on ne sache pas ce qui se passe sous cet habit. Et il ajoute, maintenant c'est toi qui me poses la question. Donc le moine pose la question, qu'est-ce qui se passe sous cet habit? Et à ce moment-là, le maître lui dit, intimité. Le moine était prêt à entendre ça, et à ce moment-là, il se prosterne aux pieds de son maître et le visage baigné de larmes. C'est le Coran de l'intimité. Bon, le mot est clair là. Maintenant, il faut bien regarder que le moine a une expérience forte, parce que le mot intimité, on l'entend souvent. Et on ne sait pas forcément, c'est pas forcément, ça ne résonne pas forcément à cette profondeur-là.
Oui, donc en fait, en deux mots, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le fonctionnement de ce Coran?
Oui, le maître a senti que le disciple était prêt à aller plus loin dans son investigation profonde au cœur de lui-même. Qui suis-je? Et à ce moment-là, il lui pose cette question. Il y a un moment où le disciple est complètement interdit. C'est un moment aussi très important, c'est-à-dire un moment où les réponses habituelles qui pourraient lui venir, et on a plein de réponses habituelles, notre esprit est encombré d'idées, d'opinions, etc. Il ne les a pas, il n'a plus rien, il est interdit, il ne sait pas quoi répondre. Le maître continue, profite de cet instant pour lui dire « Mais comme c'est douloureux ce qui se passe en ce moment !» Tu n'as pas réalisé l'éveil alors que tu as consacré ta vie à ça. Et pose-moi la question. Et quand il lui demande de poser la question, c'est vraiment ce qu'il lui dit, mais maintenant, prends la question complètement en toi-même. Deviens la question.
Il faut que la question devienne brûlante. Hein, c'est ce que...
Voilà. Qu'il soit la question. Que ce soit vraiment, je dirais même, une question de vie ou de mort à ce moment-là. Il veut réaliser quelque chose, il veut voir. Et c'est le moment vraiment où on est mûr pour voir quelque chose, c'est quand on a pris cette question complètement.
Alors, il faut quand même bien préciser que la pratique du Coran se fait au sein même de la pratique de la méditation.
Bien sûr, toutes ces histoires-là, il faut, toutes ces interactions, elles se sont passées dans des monastères où les gens étaient en méditation pendant très longtemps, hein, chaque jour. C'est aussi, ce sont des expériences d'ouverture, comme l'est la méditation. Ce sont des expériences où on est prêt à accueillir des vues, je veux dire, des
oui,
regards.
Où notre esprit n'est pas encombré en fin de compte.
Voilà, où il y a une certaine paix de l'esprit qui permet à d'autres choses d'émerger que ce auquel on est habitué.
Merci beaucoup, Catherine Pagès, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour terminer cette émission, voici quelques ouvrages que vous pouvez vous procurer. Contes des sages du Japon de Pascal Folliot aux éditions du Seuil. Vous y retrouverez 34 contes zen qui nous présentent des leçons de vie pour cultiver la patience, l'harmonie et la non-violence. Soyons zen de Tsai Chi-shung aux éditions Jouvence. Une BD qui nous raconte à travers différentes histoires illustrées le chemin de la découverte du soi. Et enfin Zen, le livre du Zen, aux éditions Philippe Piquier, un coffret de 3 petits livres d'art et de sagesse pour entrer dans l'univers du Zen. C'est la fin de notre émission, vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique « Tous les programmes » et « Chemin de la foi ». Merci à tous de votre fidélité, je vous souhaite une très très belle semaine, à dimanche prochain.